Vieille Radio, le magazine féminin nouvelle génération.
Hey, I'm petite.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, bienvenue dans YAG Radio, l'émission féminine nouvelle génération. On est ensemble pour 30 minutes consacrées à l'actualité rennaise au féminin. Et c'est un plaisir comme chaque semaine de vous retrouver. Alors avant de vous présenter les personnes qui se trouvent autour de moi, j'en profite pour vous annoncer que le numéro 25 de YAG est en ligne. Il est beau, il est frais, il est sur yagmag.fr. On consacre ce mois-ci le dossier à la médiation familiale et à ses objectifs. Un focus signé Chloé Rébillard. Elle est de retour dans YAG Radio, Justine Gourlet, journaliste pour YAG. Bonjour Justine.
Bonjour,
comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Super, alors tu as joué cette semaine à l'art numérique à l'occasion de la 6e édition de Bouillant. Tu vas nous raconter tout ça dans un instant. Avec nous également, c'est une petite équipe de footballeuses rennaises qui nous entoure. Elles ont créé le collectif Le Ballon aux Filles. Elles vont nous en parler dans le 10 minutes avec. Alors, Tracy, Megan, Anaïs, Julie, bonjour les filles.
Bonjour.
Voilà, c'est collégial. Hein. On n'a pas l'habitude de recevoir autant de monde dans le studio. En tout cas, ça fait plaisir. Et bah, il ne reste plus qu'à détailler le sommaire. C'est parti. Et on est joué cette semaine, vous allez voir, on joue à l'égalité des sexes et on rit jaune. On joue au foot et à la lutte contre les stéréotypes dans le 10 minutes avec l'équipe du Ballon aux Filles. Et enfin, on joue à l'art numérique. Ce sera donc une partie de plaisir qui va commencer dès maintenant avec la Biennale de l'égalité en Bretagne qui a lieu les 16 et 17 mai à Lorient, mais que YAG suivra évidemment sur yagmag.fr. L'égalité des droits est une valeur qui reste à conquérir au quotidien. Les inégalités et discriminations à l'égard des femmes sont une réalité ordinaire. C'est une vraie question d'actualité, un enjeu sociétal qui concerne pas moins de la moitié de l'humanité. C'est ce qu'a expliqué Gaëlle Abili, vice-présidente au Conseil régional de Bretagne en charge de l'égalité des droits, à Morgane Soularue, la journaliste qui signe l'article sur la Biennale dans le dernier numéro de YAG. Alors en effet, sur le site consacré à l'événement, quelques chiffres sont donnés. 75% des tâches domestiques restent assurées par les femmes. 40% des femmes interrompent leur activité ou la réduisent à l'arrivée du premier enfant contre 6% des hommes. 52% des demandeurs, demandeuses d'emploi étaient des femmes en 2013 en Bretagne. Elles sont de plus en plus nombreuses, en particulier chez les 20-25 ans. Ou encore 27% d'écart de salaire, tout type d'activité confondu. C'est par les femmes et les hommes. Je m'arrête là car sur le site, la liste est bien plus longue, une longue liste donc qui encourage la région Bretagne à organiser une biennale de l'égalité. A noter que l'événement est propre à la région Bretagne. Ce sera la 4e édition de la biennale que Lorient accueillera ce vendredi et ce samedi. Alors 2 jours de conférences, table ronde, ateliers, flash mob ou encore concerts et projections de films qui réuniront les nombreux acteurs de l'égalité partenaires. En tout cas, hein, c'est une collaboration avec environ 200 partenaires. C'est ce que nous a précisé la chargée de mission Marlène Piasco au micro de Ronan Lemoyer dans la Midinale de Canal B le 13 mai dernier. Une émission, hein, je me permets de dire, dans laquelle YAG était invité pour parler de l'égalité des droits. Alors, vie professionnelle, éducation à l'égalité, immigration, représentation des femmes dans la culture et les médias. Cette année, la région a souhaité tourner son regard vers les changements et évolutions attendus en termes de droits des femmes et d'égalité des sexes dans le quotidien des habitants. Derrière le thème l'égalité, ça change la vie. La Biennale espère toucher et sensibiliser le plus grand nombre. Même s'il faut bien être réaliste, la plupart des personnes qui seront présentes les 16 et 17 mai seront bien évidemment d'ores et déjà sensibilisées et même convaincues des bienfaits de l'égalité et de l'importance de cette question. Par contre, on ne doute pas que la venue de la ministre aux droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, devrait attirer de nouveaux et nouvelles curieuses. Une bonne chose de terminer cette chronique en mentionnant la ministre aux droits des femmes, puisque depuis le remaniement ministériel, elle est aussi en charge des sports. Et dans la deuxième partie de l'émission, on parlera justement sport, femmes et égalité des sexes avec les membres du Ballon aux Filles. C'est juste après la chanson de Finlay Off and On. Débranchez tout sauf votre radio.
The blood is thick, thicker than my thoughts are quick, quicker than my thoughts turn sick, sick, sicker than my temperature rising, sicker than the whites of their eyes despising me and
retient son souffle pendant que Finlay explose avec Off and On et on appuie justement sur le bouton On. Pour lutter contre les stéréotypes dans le sport, on parlait de la Biennale de l'égalité en première partie d'émission. Et à l'occasion justement de cette manifestation, une conférence sera organisée sur ce sujet. Alors on saisit nous aussi de l'occasion d'en discuter avec celles qui ont monté le projet Le Ballon aux Filles, qui sont footballeuses au cercle Paulbert-Bréquigny, pour sensibiliser le grand public au football féminin et lutter contre les stéréotypes dont souffre la discipline. Alors les filles, depuis combien de temps est-ce que vous jouez au foot ? La question.
Donc là actuellement j'ai 25 ans et j'ai commencé à l'âge de 8 ans.
D'accord,
ça commence à faire. J'étais la seule fille du coup dans mon équipe au début.
D'accord, donc tu as commencé en fait dans une équipe
de garçons.
Mixte.
Enfin... Ouais, de garçons, mixte mais avec la seule fille. Quoi.
D'accord, parce que ça, enfin ça, il y avait vraiment pas de section femmes.
Non, il y avait rien encore à l'époque. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça au final qu'il existe des sections féminines ou des pôles espoir justement. Et à l'époque, j'ai pas eu l'occasion d'avoir ça.
D'accord. Et vous ?
Et moi j'ai 21 ans et j'ai commencé à 5 ans, donc ça fait 16 ans.
D'accord.
Et pareil. Pareil, j'ai commencé dans une équipe de gars jusqu'à 13 ans.
D'accord. Oui, ça a quand même mis le temps avant d'arriver dans une équipe de filles.
Oui, moi aussi, pareil, j'ai commencé à 5-6 ans et j'ai commencé avec les garçons.
D'accord.
Et moi, j'ai commencé à 10 ans, j'ai 20 ans, mais c'est parce que mes parents ne voulaient pas, du coup.
D'accord, là, il y avait une censure parentale.
Voilà, sinon j'aurais bien commencé à 5-6 ans aussi.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a orienté justement vers le foot ?
Moi, je sais que mon père, il en faisait, donc je pense que ça doit être ça.
D'accord.
Et moi, j'ai tout de suite été attirée par le foot, je sais pas, ça m'a plu. J'étais beaucoup avec les garçons aussi, plus jeunes. Et du coup, on jouait tout le temps au foot ensemble, donc c'était une évidence pour moi à terme de rentrer dans un club et de jouer. Quoi.
Ouais, ça commence dans la cour de l'école.
Ouais, c'est ça. Souvent, ouais.
Et justement, est-ce qu'on se confronte aux idées
Au début, les garçons ne nous acceptent pas forcément parce que ils vont dire une fille, elle est nulle, elle ne sait pas jouer, c'est un garçon manqué, on ne traîne pas avec. Mmh. Enfin, tous les préjugés, stéréotypes qu'on peut retrouver même actuellement.
Ouais.
Et c'est vrai que ça permet aussi de forger un petit peu le caractère et de montrer que nous aussi, on peut jouer. Et au final, une fois qu'ils voient qu'on s'est tapé dans un ballon, faire un dribble ou autre, ils t'acceptent et ça se passe très bien. Quoi.
D'accord, donc jusqu'à pouvoir constituer
faut
une équipe.
Prouver un peu les choses auprès des garçons au début pour s'imposer. Quoi.
D'accord, et peut-être même auprès des filles aussi. Il doit y avoir certainement aussi des idées reçues de la part des filles, justement. Alors, le ballon aux filles vise à sensibiliser et promouvoir le football féminin, en luttant également contre les stéréotypes. On se souvient, au début de l'année, des propos tenus justement par les chroniqueurs de Ruquier dans l'émission Pour tous, qui ont fustigé un petit peu le football féminin et les joueuses. Mais bon, il n'y a pas que à le dire et à le penser. Qu'est-ce que vous entendez le plus, justement, comme remarque sur cette discipline ?
Vous êtes des garçons manqués.
Que c'est un sport qui n'est pas fait pour les femmes.
D'accord.
Que normalement, on n'a pas à faire ça, quoi, tout simplement, en général.
Faire la vaisselle.
Ouais, c'est ça, une machine à laver, ça dure 90 minutes, comme ils ont dit justement dans l'émission de Ruquier.
Très bien, puis c'est physique en plus, la machine à laver.
Qu'on a des poteaux aux jambes, ils l'ont bien dit aussi.
D'accord.
En fait, le foot, c'est un sport masculin, donc forcément, si une femme rentre là-dedans, on va dire tout de suite qu'elle se virilise, enfin...
Ils attaquent beaucoup le physique.
Masculinise,
Oui, c'est le physique surtout, qui prend. C'est la part de féminité, en gros, qui disparaît parce qu'on fait une activité physique.
Voilà, c'est ça.
Pour eux, une fille qui fait du foot n'est pas féminine.
D'accord, oui, ça ne peut pas aller ensemble. Justement, on connaît aussi les problèmes que rencontrent les joueuses de rugby avec ces remarques. Et justement, elles essayent aussi... on sait qu'à Rennes, elles ont fait aussi un calendrier pour essayer de prouver leur féminité. Est-ce que vous avez des chiffres sur Rennes de la part de femmes qui jouent au foot, peut-être déjà au Cercle Paulbert ? Est-ce qu'il y a une équipe de foot au Cercle Paulbert ou il y en a plusieurs
Il y a trois équipes seniors.
D'accord.
Et sinon, il y a quoi ? U15,
U13 U9.
U9,
ouais.
D'accord, donc ça arrive quand même. Maintenant, peu importe notre âge, on peut quand même trouver une équipe.
Ça se développe.
Ça se développe de plus en plus,
Il y a la SPTT Rennes aussi, il y a pas que Bréquigny.
Il y a l'Ermitage, Mordel, Janzé aussi, qui ont des clubs féminins, Vitré, Champy. Donc c'est vrai que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et c'est vrai que sur la région Bretagne, malgré tout, il y a quand même pas mal d'équipes féminines.
D'accord.
Beaucoup plus que dans certaines régions de France.
Donc bonne nouvelle quand même.
Donc c'est déjà bien, ouais, ça prend un bon chemin et même ce qu'on peut voir dans l'actualité, Elena Costa également, qui va devenir entraîneuse de foot en Ligue 2 chez les hommes. Enfin,
oui, première femme.
C'est énorme, je trouve, c'est un grand pas, quoi.
Bah oui, et justement, alors est-ce que, parce qu'on a parlé justement de l'évolution positive du fait de la recréation du ministère du droit des femmes, on a donc vu que Najat Vallaud-Belkacem maintenant était en charge des sports, est-ce que vous pensez que la nomination, forcément il y a un lien avec Najat Vallaud-Belkacem, mais est-ce que vous pensez que la nomination d'Hélène Costa c'est un peu un one shot ou est-ce que c'est vraiment le début d'un changement?
On verra bien par la suite, j'espère que ça sera un changement personnellement.
Ouais.
Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Ouais. On espère que ça sera que d'autres femmes pourront. Notamment, il y a Corinne Diacre qui est en train de passer ses diplômes aussi et qui aura la réponse. D'ailleurs, c'était hier.
Elle l'a eu.
Et du coup, elle peut être en charge d'une équipe masculine de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc, je vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas faire l'égal d'un homme alors qu'elle a les mêmes diplômes.
Bah oui, mais c'est parce qu'on les connaît moins aussi. Voilà, alors généralement,
il faut se faire respecter aussi vu que c'est une. Enfin, c'est un entraîneur, parce qu'entraîner, ça fait...
Oui, entraîneur, R.E. Mais oui, je me suis posé la question aussi en faisant l'émission. Je me suis dit, entraîneuse, on va peut-être du coup, retourner dans d'autres stéréotypes.
Quand j'étais petite, mon entraîneur, j'avais dit une fois entraîneuse, elle m'a dit non, entraîneur.
ça veut dire autre chose, on est sur une autre discipline physique. Donc, on en a parlé, hein, c'est une bonne nouvelle la nomination d'Hélène Costa, mais comment on fait concrètement pour déconstruire un peu les stéréotypes, parce qu'on sait que cette nomination ne va pas changer les mentalités du jour au lendemain. Alors, avec le ballon aux filles, vous lancez ce projet pour sensibiliser. Comment on fait un petit peu pour aller changer les mentalités?
C'est pas tellement changer tout de suite les mentalités, mais c'est essayer de les faire évoluer petit à petit. Ça se fait pas en un jour, comme on dit. La preuve, une femme qui entraîne une Ligue 2, ça a mis du temps. Mais c'est aller en parler un petit peu à gauche, à droite, essayer de sensibiliser un maximum. Nous, c'est pour ça qu'on a fait aussi le tournoi Le Ballon aux Filles, pour essayer de sensibiliser aussi bien les femmes, mais aussi les hommes, parce que c'est vrai que c'est le regard des hommes aussi qu'il faut changer.
Ouais.
Et je pense que c'est en faisant des petites actions comme ça que ça va bouger. Mais bon, faut que ça prenne son temps.
D'accord. Alors justement, la semaine dernière, vous avez déjà organisé une initiation au soccer au complexe Cap Malo, qui était ensuite suivie d'une conférence sur les stéréotypes, justement, dans le sport féminin. Comment ça s'est passé, cette conférence? Comment ça a été accueilli? Le public, comment il est venu? Est-ce que c'était un public déjà sensibilisé?
Pas toutes, non. Les petites, la plupart ne jouaient qu'au foot dans la cour de récré ou n'avaient jamais touché un ballon.
D'accord.
Et je pense qu'elles se sont super bien amusées. À l'issue de cet après-midi, on a mélangé jeu et match, donc
d'accord.
Ça leur a bien plu.
Et donc le 31 mai, là c'est le tournoi donc organisé par le Ballon aux Filles. Comment ça se passe concrètement ce tournoi? Parce que vous n'essayez pas de constituer des équipes de France, enfin des 11 joueurs. Expliquez-nous un petit peu le fonctionnement du tournoi.
En fait, l'idée du tournoi, le matin ça sera plutôt un tournoi axé sur les moins de 16 ans,
d'accord.
Donc de 11 à 15 ans. Et l'après-midi, le soir, donc de 16h jusqu'à 20h, ce sera plus les plus de 16 ans, donc les seniors en fait.
D'accord.
Parce qu'à partir de 16 ans, les filles sont considérées comme seniors.
Ah ouais,
donc c'est pas pareil que les hommes. Et l'idée c'est dans les équipes, de former des équipes où il y a maximum 3 licenciés en fait.
D'accord.
Du coup, c'est pour ça que ça amène les filles, justement, qui n'osent pas forcément s'inscrire dans un club parce que, moi, je fais du foot dans la rue, mais j'ai peut-être pas le niveau, ça. Là, justement, au contraire, c'est venir avec ses copines, donc pour s'amuser, pour essayer de découvrir. Et c'est pas obligatoire de pouvoir s'inscrire dans un club après, c'est juste essayer de sensibiliser.
De passer une après-midi conviviale
s'amuser.
En
C'est ça.
D'accord. Alors, est-ce que après ce tournoi, vous avez d'autres événements prévus ou c'était un événement ponctuel pour sensibiliser?
On aimerait bien qu'il dure, enfin, qu'il se refasse tous les ans en fait. Mais pour ça, il faut mettre les moyens, quoi. Il faut.
Ouais. On aimerait bien également aussi un petit peu poursuivre justement dans la lutte des préjugés et stéréotypes. On aimerait bien aller dans les collèges, lycées peut-être pour faire des sensibilisations auprès des collégiens et lycéens. Avec notamment Tony de Liberté Couleur, je ne sais pas si...
Qui intervient justement dans les établissements scolaires.
C'est ça, et du coup on serait avec lui en soutien et pour essayer de faire des initiations au foot. Et justement après de traiter des stéréotypes et préjugés qu'il peut avoir autour de cette pratique, notamment pour les femmes.
D'accord, et ben on ne manquera pas en tout cas de suivre le projet Le Ballon aux Filles qu'on retrouvera dans le prochain numéro de YEG à lire sur yegmag.fr. Alors comment on s'inscrit au tournoi?
Il faut envoyer un mail sur leballonaufilles@outlook.fr ou sinon sur le Facebook, c'est Le Ballon aux Filles.
Le Ballon aux Filles, d'accord, c'est simple. Eh ben, merci beaucoup à toutes les quatre. Restez avec nous, on continue de jouer dans YEG Radio et on vous emmène découvrir l'art numérique proposé par Bouillant. C'est juste après le duo Brigitte avec Battez-vous. Bonne écoute sur YEG Radio.
J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle vie.
avez évidemment reconnu les Brigitte, ça reste dans la tête. Par contre, enfin, on va essayer quand même de continuer cette émission sans fredonner et taper dans les mains ou claquer des doigts. Enfin bref, Justine, tu es allée dans l'ancienne laiterie de Verne-sur-Sèche qui accueille chaque année l'exposition de Bouillant sur l'art numérique. Tu joues donc la guide pour nos auditrices et auditeurs. Alors Justine, explique-nous, les Bouillants, c'est quoi ?
Alors, les Bouillants, là, c'est la 6e édition cette année. Donc, c'est une exposition qui est dédiée aux arts numériques, au travers de laquelle sont exposées une vingtaine d'œuvres, donc d'artistes de tous horizons confondus. La thématique, là, cette année, c'est vraiment la société du spectacle. Donc, à l'heure où le virtuel et le numérique sont omniprésents dans nos vies, comment est-ce que je me positionne dans cet univers ? Quels vont être les impacts de mes choix. Et donc nous sommes amenés à nous questionner sur le jeu J-E-U donc, comme activité et le jeu J-E comme première personne. D'accord. Donc là, il y a différentes œuvres, dont par exemple celle de Vincent Siciliato, donc, qui a vécu à Palerme et qui a été plus ou moins confronté à la mafia. D'accord. Et lui, son œuvre, c'est une vidéo où le spectateur interagit en tirant sur les bonnes cibles, bonnes entre guillemets.
Ouais.
Et donc si on arrive, on vise une cible, on voit réellement la personne mourir sous nos yeux. Donc c'est vraiment assez choquant.
D'accord.
C'est des images...
C'est très réaliste.
C'est très réaliste, voilà. Ça a été filmé, hein. C'est pas des images réelles, mais c'est vraiment dans les rues avec des personnes, des vraies personnes, quoi. Voilà, donc sinon, ça nous amène vraiment à nous questionner sur la frontière entre le réel et le virtuel.
Oui.
Donc une autre œuvre qui est assez intéressante, qui s'appelle Pain Station.
Ta préférée.
Ma préférée, voilà. J'ai subi les châtiments parce que j'ai perdu au jeu. Donc là, c'est un duo d'artistes qui s'appelle Fur, F-U-R.
D'accord.
Ils ont un site internet qui est très intéressant. Et eux, en fait, le concept, c'est une installation qui teste le joueur et ses limites. Mmh. Donc jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner. Et donc... si l'on perd, on reçoit un châtiment, ce que moi, voilà, du coup, j'ai pu expérimenter. J'ai eu une bonne décharge électrique dans la main, enfin voilà.
D'accord.
Je ne vous en dis pas plus.
Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la décharge.
Non, 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 ça peut aller plus loin. Et malgré les avertissements, en fait, c'est vrai qu'on ne lit pas, ou alors on lit, mais on ne pense pas que ça va nous arriver, puisque pour nous, c'est du virtuel.
D'accord.
Mais ça arrive vraiment...
on veut dépasser les limites pour aller voir jusqu'où.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est assez intéressant comme concept. Un autre aussi, donc, de Martin Le Chevalier, qui s'appelle Vigilance 1.0, où là, le but du jeu est de dénoncer les personnes malveillantes. Alors là, c'est pareil, on peut se demander qu'est-ce qu'un comportement malveillant et au final, quel est le but de dénoncer les personnes en tant que citoyen ? Qu'est-ce que ça m'apporte au final d'aller dénoncer des gens qui jettent des papiers dans la rue ou qui urinent contre un mur ? Qu'est-ce que ça m'apporte au final ?
Voilà. Une bonne question.
Et alors, qu'est-ce que l'exposition apporte réellement aux spectateurs ? Donc ça désacralise vraiment l'œuvre numérique et on se questionne sur le pourquoi je joue, pourquoi je gagne et au final est-ce que je suis vraiment libre dans le jeu puisque le but va être de gagner à chaque fois. Et si moi j'ai envie de perdre par exemple ?
Finalement ça s'impose un peu comme une contrainte.
Voilà, c'est ça, exactement ça. Et voilà, c'est vraiment... les artistes ont voulu nous faire réfléchir sur la position que l'on adopte en tant que joueur, mais aussi en tant qu'adversaire. Donc à savoir, est-ce que l'adversaire est là pour m'aider ou pour gagner et m'écraser ? Voilà, c'est vraiment... les questions que l'on se pose.
D'accord, et donc c'est jusqu'au 1er juin.
Exactement.
Donc l'ancienne laiterie.
Voilà, et c'est accessible à tous. Et même si ce n'est pas évident à comprendre, donc je précise qu'il y a beaucoup de médiateurs sur place qui sont là justement pour nous aider, pour faire le tour avec nous, pour nous montrer vraiment comment l'artiste a imaginé son œuvre et nous expliquer clairement le message de l'artiste, ce qui est important quand même.
Très bien, donc tu nous encourages à aller visiter l'exposition de la 6e édition de Bouillant. Merci beaucoup Justine. Sans transition, on passe à l'instant féministe, la rubrique qui vous fait découvrir la culture féminine. On parle cette semaine d'Égalité Poursuite. Oui, vous avez bien entendu, Égalité Poursuite. Et Justine, ça ne t'est pas inconnu puisque le mois dernier, tu y as joué aussi à Égalité Poursuite. C'est un objet insolite, ce jeu de société, qui vise à sensibiliser tous les publics aux difficultés rencontrées par les femmes pour briser le plafond de verre et bénéficier de conditions de réussite par leur, de leur carrière professionnelle analogue à celle de leurs homologues masculins. C'est ce qu'explique la note rédigée dans la règle du jeu, un jeu qui a été réalisé par la ville de Rennes dans le cadre du projet européen Cometa 2000 avec leurs partenaires espagnols et italiens, et c'est lors d'une conférence sur l'égalité femmes-hommes en Europe en mars dernier à Rennes qu'on a découvert Égalité Poursuite. Alors le mois dernier, la rédaction d'IEG s'est accordée un instant plutôt ludique pour expérimenter ce jeu de loi un brin particulier. Le principe est simple, un plateau, des cartes, un dé, des personnages, jusque là tout est ok. Le but aussi est simple, atteindre la case égalité pour gagner la partie, et tout se complique lorsque l'on tombe sur une carte verte porteuse de handicap. Vous êtes à la tête d'une famille nombreuse, c'est la galère pour trouver du travail, retournez à la case départ. Les hommes que vous encadrez refusent votre autorité parce que vous êtes une femme, reculée de 4 cases. Ou encore, votre conjoint est au chômage, en plus des problèmes financiers, vous devez gérer les problèmes psychologiques, reculée de 2 cases. En tout cas, les situations toujours traduites en espagnol sont cinglantes et finissent même par être oppressantes. Et les dessins ne privilégient pas l'esthétique non plus et sont d'aucune aide du coup pour se réjouir, puisqu'en effet, elles transpirent un peu l'amorosité ambiante et long chemin qui reste à parcourir. Alors les discriminations actuelles sont pointées du doigt, famille, chômage, salaire, sexisme et on en passe. On identifie très facilement et malheureusement les situations déjà bien connues. Alors au fil de la partie, on s'est demandé pourquoi aucune carte ne condamnait les hommes qui ne respectent pas l'égalité des sexes à reculer de plusieurs cases. On en est venu à la conclusion que les joueurs peuvent ainsi se glisser dans la peau des femmes et s'arracher autant de cheveux que nous l'avons fait durant cette partie, qui a bien mis nos nerfs à rude épreuve, mais qui nous a quand même fait nous poser quelques questions, hein, Justine.
Oui, tout à fait.
On s'est quand même... On a quand même rigolé, mais c'était une partie de plaisir masochiste.
Oui, voilà, exactement, c'est ça.
En tout cas, si les jeux de société, c'est pas votre truc, voilà comment bien occuper votre semaine, quand même, puisque c'est l'heure de l'agenda. Rapide tour d'horizon de ce qu'il y a à faire cette semaine à Rennes, et on commence logiquement par la Biennale de l'égalité qui a lieu à Lorient. Oui, j'avais bien dit que c'était logique, c'est les 16 et 17 mai. Pour en connaître le programme, www.bretagne-égalité.fr. Et bien évidemment, on suivra toute l'actualité de la Biennale sur yegmag.fr. On revient à Rennes cette fois, c'est pas une blague. Ce week-end, le Stade Rennais se transforme en salon de tatouage géant, puisque les 17 et 18 mai se tient la première convention du tatouage à Rennes, l'occasion de rencontrer des artistes tatoueurs nationaux et internationaux. Et c'est un événement organisé par Virginie Javoise, la seule femme tatoueuse à Rennes, elle dirige Atomic Tattoo, que l'on a bien évidemment déjà rencontré pour YEG. On vous dira tout sur cet événement aussi sur yegmag.fr. Et ce week-end également sur la place de la mairie, le samedi 17 mai se déroule la journée nationale contre l'homophobie et transphobie. Le centre GLBT de Rennes et d'autres associations sensibles au sujet seront présents pour sensibiliser Rennaises et Rennais aux conséquences de l'homophobie et de la transphobie. Sans trop vous en dire, sachez que YEG s'intéresse de près ce mois-ci à la question. Voilà pour l'agenda et c'est déjà l'heure de conclure cette émission. YEG Radio, c'est fini pour aujourd'hui, mais toute l'actualité rennaise au féminin est à suivre au quotidien sur yegmag.fr. Et je vous rappelle que le numéro 25 de YEG est en ligne, alors allez-y, faites-vous plaisir, cliquez, lisez, partagez. Merci beaucoup Tracy, Mégane, Anaïs et Julie d'être venues nous parler du projet Le Ballon aux Filles. À bientôt.
Merci à vous.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Et bonne continuation pour le tournoi. Je remercie toute l'équipe de YEG Radio, Claude qui réalise cette émission, Justine Gourlet, journaliste pour YEG, qui va passer du foot à la danse pour le prochain numéro du mensuel. Ça va être assez sportif. En tout cas, merci à toutes et à tous. On se retrouve dans YEG Radio la semaine prochaine, même jour, même heure. Musique.